Il est 12h. Le journal de midi. Jean-Mélène Betty.
Il est 12h dans le Bounkani et dans le Lodjiboa. C'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Révision de la liste électorale. La CEI lance une campagne de sensibilisation à Yamoussoukro. Divo, bilan des municipales. Un an après, les jeunes s'engagent pour des élections apaisées. Et puis hors de nos frontières, reprise des enquêtes de la CPI en RDC, les organisations de défense des droits de l'homme satisfaites. Sport football, éliminatoire Cannes, Maroc 2025, la Côte d'Ivoire battue par la Sierra Leone lors de la quatrième journée de la compétition par 1-0. Enfin, l'invité de la rédaction d'aujourd'hui est Théodore Zadignania, président de la Confédération, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire, qui se prononcera sur les grèves enclenchées et lui répondra aux questions de Jean-Claude Comé. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous. Débutons cette édition par la commission électorale indépendante CEI, dont le superviseur pour les régions du Ndzi, du Bélier et du district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro a échangé ce mardi 15 octobre 2024 avec les populations de Yamoussoukro en vue du démarrage de l'opération de révision de la liste électorale ce samedi 19 octobre 2024. Dr Doumbia Soumaïla leur a expliqué le mode opératoire et a appelé à la mobilisation de tous pour sa réussite. On en sait un peu plus avec Émile Yao.
Le superviseur de la commission électorale indépendante pour les régions du Ndzi, du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, Dr Doumbia Soumaïla, a pour l'essentiel expliqué à ses interlocuteurs le mode opératoire de la révision de la liste électorale et fait part de certaines innovations majeures opérées dans la dite opération.
Il s'agit pour nous d'appeler les populations à participer massivement à cette révision de la liste électorale. Les documents demandés, quand on est nouveau requérant, CNI, attestation de demande de CNI, certificat de nationalité. En plus, nos populations, elles peuvent, pendant le recensement, apporter des preuves pour demander la radiation des personnes décédées. On n'attend plus la période du contentieux pour le faire comme cela se faisait auparavant.
Docteur Doumbia Soumaïla a par ailleurs rassuré son auditoire quant à la durée de l'opération.
Nous attendons 4 millions d'Ivoiriens avec nos appareils. Nous pouvons faire 50 enregistrements par jour. Nous avons 12 000 lieux de vote. Ça veut dire que nous pouvons même, en 3 semaines, enregistrer plus de 13 millions d'Ivoiriens.
Koulibaly Gando, préfet des régions et du département de Yamoussoukro.
La région de la liste électorale, c'est le point névralgique des élections. Si on n'a pas son nom sur la liste, on ne peut même pas aider son parti politique. Donc, ça va commencer le 19. On invite les jeunes à venir massivement.
De nombreux autres intervenants se sont préoccupés de la radiation de la liste électorale de certains potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2025. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Restons toujours sur le même sujet et cette fois-ci à San Pedro où une rencontre d'information et de sensibilisation du corps préfectoral et de la population de la région sur la révision de la liste électorale a été initiée par la CEI, Commission électorale indépendante, le mardi 15 octobre 2024. Objectif de cette rencontre, présenter le mode opératoire des élections aux populations. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Pour cette rencontre, avant les échanges, une présentation du mode opératoire des élections avec ses innovations a été faite par Marguerite Yoli Bikone, superviseur de la CEI, Commission électorale indépendante, dans le district du Bassa-Sandra.
Les élections en Côte d'Ivoire, depuis un moment, il y a des troubles autour, alors que c'est un jeu démocratique. Nous avons incité à y participer de manière pacifique et travailler à sensibiliser ceux qui doivent être sur la liste électorale à y être, comme les jeunes, les nouveaux majeurs et même ceux qui ne se sont jamais inscrits. Une des innovations majeures, c'est que maintenant, on peut radier une personne décédée pendant la phase d'enrôlement qui doit se faire du 19 octobre au 10 novembre. Avec le certificat de gens de mort, le certificat délivré par le médecin, l'acte de décès, on peut venir radier son parent décédé. Nous avons expliqué aussi que l'enrôlement en ligne est suspendu pour le moment. S'il y a un souci dans un centre, qu'il se déporte à la commission locale. On ne se fait pas justice.
Pour Ousmane Koulibaly, préfet de la région de de San Pedro, les participants à cette rencontre doivent jouer le rôle de relais auprès des populations.
Je crois que chacun a eu le temps de comprendre et que chacun va s'y mettre pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne connaisse plus ces bagarres inutiles quand on est mal informé? C'est pourquoi je voudrais vous demander de porter l'information juste telle que vous l'avez reçue à vos électeurs.
Occasion pour inviter la jeunesse à œuvrer pour un processus électoral apaisé. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
De San Pedro, rendons-nous à Divo où un an après les élections municipales qui ont été enregistrées pour la première fois dans cette ville à la participation d'un candidat choisi par l'ensemble des leaders de jeunesse RHDP, PDCI, RDA, FPI, PPACI, l'heure était au bilan de leur engagement dans la course électorale samedi 12 octobre dernier. Le leader de la jeunesse et initiateur de cette rencontre d'autocritique, Bakayoko Ibrahima, rassure qu'il n'y aura plus de violence à Divo pendant des élections. Suivons-le au micro de notre correspondant régional, Abel César Cassin.
C'est qu'aujourd'hui, il est important que la jeunesse prenne conscience du rôle premier qu'elle joue dans le développement d'une nation et au plan local. C'est pourquoi nous avons décidé, nous jeunes-là, de mettre ensemble nos efforts pour regarder dans la même direction et s'unir dans cette diversité politique religieuse pour le rayonnement de Divo.
Vous avez dit tout à l'heure que pour la première fois dans l'histoire de Divo, depuis 1978, il y a eu des élections sans violence.
Oui, effectivement, c'est toute une première. C'est pourquoi nous disons que cette candidature a été historique, parce que c'est la première fois qu'à Divo se déroulent des élections sans heurts et sans violence. Et cela a été possible grâce à la prise de conscience des jeunes aujourd'hui. Longtemps, nous jeunes-là, nous sommes restés attachés à des biais de bandes qu'on nous donne. Mais aujourd'hui, si il y a eu ces élections, c'est parce que la jeunesse même, elle a décidé d'être pour nous jeunes aujourd'hui. Il n'y a pas d'échec. Nous avons appris beaucoup et cela doit être un miroir pour nous, pour dire que la meilleure manière de faire la politique, c'est de faire la politique sans violence, où on va au débat, où on va aux arguments sans violence.
À l'instant, Bakayoko Ibrahima, initiateur de cette rencontre. De retour à Divo à la faveur d'une cérémonie de remise de matériel didactique au COGES, comité de gestion des établissements scolaires des trois inspections de l'enseignement préscolaire et primaire de Divo par le maire de la commune pour les soulager pendant l'attente des versements des subventions de l'État. Vendredi 11 octobre, le préfet de région Célestin Wablignon, qui présidait la dite cérémonie, a rappelé que toute cotisation par les parents d'élèves est interdite. Abel César Cassin.
Matériel didactique ainsi que petits mobiliers, récipients de divers usages et poubelles sont destinés au COGES, comité de gestion des établissements scolaires, des écoles, des trois inspections de l'enseignement préscolaire et primaire de Divo. D'un montant global de 20 millions de francs, ce don résout le problème qu'évoque ici le maire Ali Touré.
Donc, les subventions qui vont arriver vont certainement servir à autre chose. Je sais que vous avez des difficultés. Nous serons à vos côtés, à vous apporter ce que nous pouvons pour vous aider à faire votre travail.
La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Divo, Conan Jeanne, a exhorté ses collaborateurs à plus d'égards pour ses dons.
Toutes ces réhabilitations qu'on a mentionnées tout à l'heure, tout ce matériel didactique, je voudrais qu'on puisse en faire un très bon usage pour qu'ils puissent avoir le courage de continuer de nous assister.
En ce qui concerne les cotisations dans les écoles, le préfet de la région de l'Ojibwa, préfet de Divo, Célestin Wamblayon s'est montré inflexible.
Le maire a bien fait de dire que les parents peuvent être sollicités pour des actions ponctuelles. Ça, c'est normal. Mais il est interdit en Côte d'Ivoire de lever des cotisations. On a reçu une note de votre ministre et je serai très regardant là-dessus.
Soulignons qu'en plus du matériel didactique, la mairie a également remis aux différents concernés trois classes réhabilitées et un bureau au groupe Fraternité d'Ivo, trois autres classes, un bureau et sept latrines à l'EPP Kwakosu, 75 tables-bancs et deux salles de classe réhabilitées à l'EPP TP de Divo. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Dans le Bounkani, le lycée moderne de Bouna est doté d'une nouvelle médiathèque composée d'une salle multimédia numérique et d'une bibliothèque. Cette médiathèque composée d'ordinateurs de bureau avec une connexion internet d'un an, de livres et de tables d'études est un don du conseil régional du Bounkani. Cette action vise à soutenir l'éducation et l'accès à la technologie pour améliorer le rendement scolaire de la région. Pour plus de détails, retrouvons à Bouna Jérôme Kouassikrou, notre correspondant dans le Bounkani.
Fien Philippe, le président du conseil régional du Bounkani, donateur.
Une bibliothèque qui, nous l'espérons, va susciter en vous la maintenir, l'entretenir, l'amour de la lecture. C'est une seconde salle qui est une salle informatique pour vous permettre de faire des recherches sur Internet. Il faut faire une connexion Internet. Voilà pourquoi nous avons choisi de faire un abonnement Internet toute l'année pour que vous puissiez être à même de faire vos recherches. Mais vous serez étonné de constater que vos enseignants eux-mêmes seront dans la salle en train de faire des recherches.
La satisfaction exprimée de certains élèves bénéficiaires.
Jabarta Baka, vice-président du conseil scolaire et des délégués du lycée moderne Bouna. Par exemple, si un professeur vous donne des exposés, de sortir à payer de l'argent, par exemple un 3000 comme ça pour faire ton exposé. Tu viens ici, tu peux faire ça gratuitement. Car eux aussi d'enrichir nos connaissances en vocabulaire.
Donc vous êtes Alimata en classe de terminale D3. Lorsqu'on finit un cours, on peut venir approfondir le cours dans les ordinateurs ou soit dévancer le professeur en cherchant des notions sur ce cours.
Les élèves des autres établissements scolaires de la ville de Bouna doivent être autorisés à fréquenter la médiathèque, a clarifié le président des régions, Yann Philippe.
Permettez aux autres qui veulent vraiment venir faire des recherches, de le faire, de s'instruire, de se former, pour qu'on ait toutes les chances d'être les meilleurs quand on va croiser les autres, parce que tout le monde sera formé.
Cette action a pour objectif de donner aux jeunes de la région les mêmes opportunités d'apprentissage moderne que ceux des autres localités du pays, a justifié le président des régions, Jérôme Kouassikrou, de Bouna, Radio de la Paix.
Une note de santé dans cette édition à Korogo, message de proximité dans les lieux publics tels que les marchés, le porte-à-porte et autres canaux ont été, entre autres, ponctués cette campagne de sensibilisation relative au cancer pédiatrique ou encore cancer de l'enfant. Une initiative de l'ONG Adorad et ses partenaires techniques et financiers. Plus de détails dans ce compte rendu de notre correspondant régional Tommy Corona.
Pourquoi avoir porté le choix sur la ville de Korogo? Réponse avec Madame Laure Isabelle Kofi, présidente de l'ONG Adora.
Le Grand Korogo, il y a un pic au niveau des cancers de l'enfant. Et il nous est paru très important de venir communiquer la bonne nouvelle aux parents de Korogo. Leur dire que le cancer de l'enfant se guérit à condition qu'il soit vite diagnostiqué. Et c'est cette nouvelle-là que nous sommes venus porter. Nous sommes venus porter aussi la nouvelle concernant les signes alertes qui doivent attirer l'attention des parents. Parce que, vite diagnostiqué, les enfants guérissent.
Avant de révéler ces chiffres.
Au niveau de la Côte d'Ivoire, le Globocom 2022, les chiffres du Globocom, c'est que nous sommes à l'incidence à peu près à 1019 cas diagnostiqués avec 586 décès. Vous conviendrez avec moi que le gap est énorme. C'est plus de la moitié des enfants diagnostiqués qui meurent. Et ça, ça doit finir, ça doit s'arrêter.
Soulagement perceptible chez Kloubali Mamou Farafina, présidente des femmes de Korogo 1.
Or, s'il se trouve que l'enfant est malade, c'est en même temps la maman qui est malade. Si aujourd'hui, on a une ONG qui intervient dans notre cité pour nous aider à guérir ce fléau quand il est pris très tôt en charge, donc nous disons merci à l'ONG Adorad.
Après l'étape de la cité du Poro, la dite ONG et ses partenaires se rendront à Diokoué, Fresco et Sassandra pour la même activité. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
Parlons toujours santé. Du 18 au 24 octobre prochain se tiendra une campagne de sensibilisation, de vaccination, de suivi contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue du territoire national. Elle concerne 113 districts sanitaires du pays. Lors d'une conférence tenue le lundi à Abidjan, le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle est revenu sur les détails de cette campagne. Écoutons le professeur Soro Kuntele Guna.
Pour renforcer l'immunité de la population contre la rougeole et la rubéole, la Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise une campagne de vaccination de suivi contre la rougeole et la rubéole, ciblant 6 846 061 enfants âgés de 9 mois à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national. Durant cette campagne, des postes de vaccination seront installés un peu partout dans les villes, les quartiers, les villages, les campements, les hameaux pour faire vacciner nos enfants. La cérémonie de lancement officiel de cette campagne de vaccination se tiendra le 16 octobre 2024 à 9h à la place Ado du quartier Bardo de San Pedro, sous la présidence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Je lance un appel à tous les parents et gardiens d'enfants à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, la rubéole. Le vaccin contre la rougeole, la rubéole est sûr, efficace et surtout gratuit.
À l'instant, le professeur Soro Kuntele Gona, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Hors de nos frontières en RDC, la Cour pénale internationale a annoncé lundi 14 octobre la reprise de ses enquêtes en République démocratique du Congo, des enquêtes sur les crimes graves relevant du statut de Rome dans l'est du pays. 20 ans après ses premières enquêtes en Ituri, qui se sont soldées par la condamnation de plusieurs chefs de guerre, la CPI va désormais se plancher sur des crimes plus récents commis dans la province du Nord Kivu, a annoncé lundi soir le procureur de la CPI, Karim Khan. Une annonce saluée par les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Et puis au Proche-Orient, l'Iran répondra résolument à toute attaque israélienne, a mis en garde le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, lors d'un appel mardi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur fond de vives tensions régionales. L'Iran fait des efforts considérables pour protéger la paix et la sécurité de la région, mais tout à fait prêt à répondre résolument à toute aventure d'Israël et à lui faire regretter, selon des propos rapportés ce mercredi par le ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran a lancé le 1er octobre quelques 200 missiles sur Israël, dont plusieurs missiles hypersoniques. Pour la première fois, Israël a juré de faire payer à l'Iran le prix de son attaque. Et puis sport football, la Côte d'Ivoire a été battue 1-0 en match éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique prévue au Maroc en 2025. Malgré cette courte défaite, les éléphants gardent la tête du groupe G. Le point avec vous, César Yao.
La Côte d'Ivoire s'est inclinée 1-0 face à la Sierra Leone, un résultat inattendu pour les éléphants. À l'issue du match, le sélectionneur Imers Faye s'est exprimé sur cette défaite en rappelant l'importance d'apprendre, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Le coach ivoirien a également défendu ses choix tactiques, notamment les nombreux changements opérés dans l'effectif pour ce match. Imers Faye a mis en avant les conditions particulières du jeu, notamment le terrain synthétique, qui l'ont poussé à préserver certains joueurs ayant accumulé beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Malgré la défaite, l'entraîneur n'a pas voulu accabler les nouveaux joueurs intégrés pour ce match et Mers Faye a ainsi rappelé que la cohésion de l'équipe reste primordiale, qu'il s'agisse des victoires ou des échecs. Cette défaite doit être perçue comme une leçon pour renforcer les éléphants en vue des prochaines échéances, un résultat qui retarde d'ailleurs leur qualification car avec 9 points dans le groupe G, ils restent leaders mais ne sont toujours pas mathématiquement qualifiés. De son côté, avec 4 points, la Sierra Leone reste en course derrière la Zambie 7 points. Les deux dernières journées en novembre seront décisives.
Dernière articulation de cette édition, l'invité de la rédaction du jour est Théodore Zadi Nyanya, président de la Confédération, plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs privés et publics de Côte d'Ivoire, qui se prononce sur les grèves enclenchées par certains syndicats des secteurs de la formation et de la santé. Ces grèves remettent-elles en cause la trêve sociale signée en 2022 par le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales? Qu'est-ce qui a été obtenu depuis la signature de cette trêve? L'invité de Jean-Claude Comé nous éclaire dans cet entretien que je vous invite à suivre.
Bonjour, monsieur Théodore Zadi Nyanya. Bonjour.
On entend des syndicats qui annoncent des grèves au niveau, par exemple, de l'éducation, au niveau du secteur de la santé. Alors, se pose la question de savoir, est-ce que la trêve sociale que vous avez signée en tant que syndicat est rompue?
Je vous remercie, mais je voudrais tout de suite vous rassurer que la trêve sociale est un paradigme nouveau, qui est une construction jour après jour. En 2017, nous avons vécu dans la première trêve sociale des grèves en 2019, 2020, 2021. Mais on a quand même maintenu l'architecture de la trêve sociale. Donc, il peut arriver qu'il y ait quelques crispations, des incompréhensions même, que des camarades déposent des préavis. Cela ne met pas fin à la trêve sociale qui nous permet, avec le gouvernement, de travailler dans la sérénité. Nous comprenons que des préoccupations sectorielles n'aient pas été bien réglées au niveau des secteurs d'activité puissent monter à la surface et donnent le sentiment que la trêve sociale est brisée, ce qui n'est pas le cas.
Est-ce que vous avez la même lecture que le gouvernement, parce que lors de la signature de cette trêve avec les centrales syndicales, l'idée c'était d'apaiser le niveau social pour que les travailleurs puissent contribuer au développement du pays sans perturbation, alors qu'on constate ces perturbations avec ces annonces de grève.
Mais la réalité c'est que depuis 2022 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de perturbation. Donc ça c'est une réalité, ça veut dire que des efforts sont faits au niveau des organisations syndicales, au niveau du gouvernement pour que nous maintenions cette architecture de paix. Nous sommes convaincus qu'il y a des défis à relever. Mais il nous faut chaque fois travailler à ce que nous puissions maintenir, n'est-ce pas, cette construction de paix. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, de faire face aux revendications de nos camarades, de trouver des solutions. Nous travaillons depuis deux semaines pour que des éléments soient pris en compte. Vous avez pu suivre dernièrement, au niveau de la primature, la mise en place du comité consultatif de la fonction publique, dont la mission est de gérer les questions à caractère financier qui peuvent advenir pendant la période de trêve. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que à l'issue de la signature de la trêve sociale, il y a une architecture qui a été mise en place. Les comités sectoriels de discussion à la base, ils doivent gérer certaines questions à un certain niveau. Et au niveau sommet, je dirais, on a deux structures, le comité consultatif de la fonction publique, dont la mission est de régler les problèmes à caractère financier, et le comité de suivi de la trêve sociale qui est logé à la primature, qui doit chapeauter tout cela. Donc, je pense que le dispositif est en train de se mettre en place et nous sommes convaincus que petit à petit, tout le monde va rentrer dans les rangs et que nous aurons donc la paix telle que nous la souhaitons. Mais il nous faut faire face à la situation actuelle par la négociation, par l'apaisement, et c'est ce que nous faisons, nous, en tant que centrale signataire, pour amener nos camarades à s'inscrire dans le dialogue qui, pour nous, est productif et qui donne des résultats que tout le monde sait.
Entre autres revendications des syndicats, c'est le paiement des primes trimestrielles. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui en bénéficient et d'autres pas pour l'instant. Quel est votre avis, vous, en tant que responsable syndical et fonctionnaire aussi, sur cette question des primes trimestrielles revendiquées, ça et là?
Sur la question de la légitimité, de la justesse de la revendication, nous sommes en phase. Pour nous, le moment est venu pour que cette question-là soit regardée de façon globale. Il y a des ministères à primes et d'autres qui n'en ont pas. Pour nous, en tant que centrale qui voyons les choses de façon transversale, la question est certes posée par les secteurs que vous avez cités, mais concerne tous les secteurs d'activité qui ne bénéficient pas des primes. Donc, nous nous sommes battus hier, en 2022, pour que l'indemnité contribuée au logement qui était réservée à une catégorie de fonctionnaires soit élargie à l'ensemble de la fonction publique. Il est donc justice aujourd'hui et équité que les primes trimestrielles soient également élargies à l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes en phase et le gouvernement lui-même n'a jamais dit qu'il était opposé à l'octroi de primes à qui que ce soit. La preuve, le comité consultatif va commencer ses travaux dès le jeudi prochain et à l'ordre du jour, vous avez la question des primes au niveau des fonctionnaires qui va être analysée avec Munisti pour que nous sortions de là avec, je dirais, des solutions transversales et définitives et qu'on analyse la chose de façon globale pour que le gouvernement ivoirien, comme il a su le faire par ailleurs sur les questions que j'ai citées plus haut, octroie, n'est-ce pas, des primes trimestrielles qui permettraient donc à ces secteurs-là de retrouver leur lustre d'antan, notamment au secteur éducation-formation ainsi que de la santé, pour jouer le rôle qu'on attend d'eux. Donc, sur ce plan-là, ni les centrales syndicales, ni le ministère de la fonction publique, encore moins l'État de Côte d'Ivoire, n'a opposé une fin de non-recevoir à cette revendication. Donc, pour nous, il faut laisser la chance à la discussion qui va donner des résultats, parce que c'est par la négociation que nous avons pu obtenir aujourd'hui dans ce pays, sur les 5 ans à venir, plus de 1 000 milliards qui sont en train d'être distribués, n'est-ce pas, à tous les mois aux fonctionnaires. Donc, il faut faire confiance à l'architecture de la négociation, et c'est ce message-là que nous passons à nos camarades de nous faire confiance, puisque nous sommes membres de ce comité. C'est pourquoi nous demandons à nos camarades de permettre au président, qui a toujours regardé les choses avec bienveillance, de le faire pour que nous puissions encore obtenir. Il vient de donner une prime spéciale aux retraités, ce que nous avions espéré. Il l'a fait pour les fonctionnaires. Donc, il peut faire encore beaucoup de choses, et nous pensons que c'est cette voie-là qu'il faut, mais il faut le faire dans le calme, dans la sérénité, et sortir des pressions et de la crispation qui n'était pas toujours avantageuse pour les partis.
Monsieur Théodore Zadignagna, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était le président de la Confédération Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles des Secteurs Publics et Privés de Côte d'Ivoire, Théodore Zadignagna, invité de la rédaction. Il répondait aux questions de Jean-Claude Comé. Voici qui met un point final à cette édition, mais avant le rappel des titres. Révision de la liste électorale. La CEI lance une campagne de sensibilisation à Yamoussoukro. Divo bilan des municipales un an après, les jeunes s'engagent pour des élections apaisées. Et puis reprise de l'enquête de la CPI en RDC, les organisations de défense des droits de l'homme satisfaites. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la rédaction 15h, mais avant, dans un court instant, la revue de la presse ivoirienne proposée par Mel Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. C'est depuis hier qu'est entré en vigueur le mot.